Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour à tous, bienvenue au Guide de l'auto, 201e émission. Germain, on est le 4 février et il fait frette pas à peu près.
Oui, il fait... c'est pas chaud.
Fait, dans le studio, il fait particulièrement chaud parce que, aussi drôle que ça puisse paraître, autant dehors on gèle, autant dans le studio on crève parce que le thermostat est brisé. Mais ça, c'est une autre histoire.
Absolument, et je doute que ça intéresse les gens.
C'est ça, mais moi ça m'intéresse particulièrement en ce moment parce qu'à chaque minute qu'on va se parler, ça se peut j'enlève une pleure. Mais...
qu'on en finisse au plus.
C'est ça. Bon, en deuxième partie d'émission, on va parler avec Gino Desrosiers, porte-parole de la SAC. Vous savez pourquoi. Évidemment, il y a un gros branle-bas de combat qui se passe du côté de la Société d'assurance automobile du Québec, à savoir la refonte complète du site web et des services, conséquemment, qui vont en découler. Mais en attendant, quelques nouvelles cette semaine. Peut-être un mot sur le fait que le Salon de l'Auto de Montréal a accueilli plus de 150 000 personnes.
Près de 150 000 personnes. Donc, on n'a pas tout à fait franchi.
Mais moi, j'ai passé le tourniquet 8-10 fois. Là,
oui, fait c'est que... ça. Fait qu'on n'est pas loin du 150 000.
C'est ça.
Mais oui, donc, ça a dépassé nos attentes personnelles,
ben
je
oui,
pense.
Vraiment.
Cela dit, il y a eu beaucoup de ces visiteurs-là qui ont été déçus par la grandeur du salon, déçus par l'absence de manufacturiers importants. Alors, à quoi ressemblera l'édition 2024 du
Salon
de l'Auto?
Ça sera un défi.
On a un an pour se retrousser les manches et surtout pour activer cette opération reséduction des visiteurs en leur promettant que des manufacturiers qui étaient absents seront de retour, en leur promettant des attractions qui seront encore plus grandioses que les 5 Ferrari les plus légendaires.
La bonne nouvelle, oui, c'est qu'on sait au moins que les gens sont là.
Oui, oui, oui.
Donc, c'est pas comme si on avait déserté ce genre d'événement-là. Les gens
encore.
Sont encore là, sont encore intéressés, mais encore faut-il les séduire.
Oui.
Bon, évidemment, le véhicule qui a fait parler cette semaine, on l'attendait de pied ferme. On avait beaucoup, beaucoup de publicité qui nous teasait, si tu me permets l'expression, l'arrivée de ce modèle-là sur les réseaux sociaux. C'est le Mazda CX-90, bien sûr remplaçant du CX-9, qui a été dévoilé un peu plus tôt cette semaine. Sacrée belle gueule, si tu veux mon avis. Pas que ça réinvente un VUS, parce que ça demeure le format d'un VUS.
Intermédiaire à trois rangées.
C'est
là,
ça.
Donc,
mais c'est pas mal plus sexy qu'un Highlander, qu'un Pathfinder, en termes de design. Là.
Oui, et on nous donne encore l'impression d'un véhicule assez raffiné. On poursuit dans la même lignée qu'on avait avec, mettons, le dernier CX-5, le CX-50.
Ouais.
Mais la grande nouveauté, si tu veux mon avis, ça se loge sous le capot. On arrive enfin avec une nouvelle mécanique chez Mazda. Et dans le cas du CX-90, on aura droit à un moteur à 6 cylindres en ligne de 3,3 litres. C'est pas une configuration mécanique à laquelle on est habitué dans ce type de véhicule-là. Alors, ce sera nouveau, ce sera rafraîchissant. On sera à 340 chevaux, 369 livres-pieds à condition d'utiliser du super, bien évidemment. Et grande surprise aussi, on n'a pas la boîte automatique à 6 rapports.
Non.
On s'est modernisé de ce côté-là. On ajoute 2 rapports supplémentaires et on ajoute par-dessus tout ça, un système d'hybridation légère qui permettra là, à basse vitesse de servir d'appoint.
C'est un alterno-démarreur, c'est ça. C'est un alterno-démarreur 48 volts.
Oui.
Donc ça...
Comme on retrouve chez d'autres manufacturiers.
Exactement.
Mais c'est toujours apprécié parce que ça donne cette espèce de couple instantané au démarrage. Puis ça fait jamais de mal à la consommation. On arrive aussi avec une mécanique hybride rechargeable. Donc, encore là, une belle nouveauté chez Mazda. Donc, on combine un moteur turbo-compressé de 2,5 litres, qu'on connaît bien, mais avec une batterie de 17,8 kWh.
Donc, le rendant éligible au crédit, tout dépendant des prix qui n'ont pas été dévoilés, mais...
Oui, et si les critères ne sont pas modifiés d'ici l'arrivée du véhicule, parce que ce sera un modèle 2024, mais qui devrait arriver d'ici l'été, là, d'ici le printemps.
Moteur électrique qui est pris en sandwich entre la transmission 8 rapports et le moteur turbo. Batterie, comme tu disais, 17,8 kWh et attendez-vous à une autonomie qui va être entre 50 et 60 km. Les chiffres ne sont pas officiels, je crois. Moi, j'ai pu tester ces motorisations-là.
Mais dans une coquille différente.
C'est ça, c'est-à-dire dans le CX-60 qui est vendu présentement du côté de l'Europe, véhicule qui est un peu plus compact à deux rangées de sièges, dont le format se rapproche beaucoup plus de celui d'un CX-50, par exemple. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Couple initial qui est magnifique. Le rendement de cette mécanique-là est intéressant. La transmission, ça fait toute la différence. Bien sûr, on est habitué à des 6 vitesses chez Mazda. Et de retrouver une motorisation à 6 cylindres, parce que Mazda continue de croire énormément au moteur à combustion.
Mais on y croit aussi, là.
Oui, c'est ça.
Nous, au Québec, on vit dans cette espèce de bulle électrique, là, mais ailleurs sur la planète, des motorisations à essence, ça a encore sa place.
Absolument.
Le rendement est intéressant et on le sait, là.
Et on va nous prouver que ça peut être efficace sur le plan énergétique aussi.
Et on parlait de couple un petit peu plus tôt. Un moteur à 6 cylindres en ligne, c'est réputé pour être généreux en couple. Et là, ajoute à ça l'hybridation légère, ça devrait être bien, là.
Alors, es-tu capable de me nommer le dernier produit Mazda qui a été doté d'un moteur à 6 cylindres qui ne provenait pas de chez Ford?
Ah, ben là, on recule un peu loin, là. Vite de même, j'ai pas la réponse.
929 Serenia.
Ah, et c'était un moteur de conception
moteur,
Mazda?
C'était un moteur de conception Mazda, le 6 cylindres. Bon, il y a eu des V6 2.5 litres aussi étirés dans des Mazda 626 MX6 Mystère, qu'on retrouvait aussi dans le Ford Probe, notamment.
Parce que les dernières Mazda 6 à 6 cylindres, ou même
les moteurs Ford 3 litres.
Les B4000, c'était directement de chez Ford. Là.
C'est ça, exactement. Autre nouvelle cette semaine, l'autonomie de l'IONIQ 6 qui a été dévoilée. C'est drôle qu'on parle d'autonomie cette semaine parce que tout ce dont on entend parler dans les médias, c'est l'autonomie des véhicules électriques qui baisse quand il fait moins 25. Je suis en mesure de vous le confirmer puisque je conduis un véhicule électrique cette semaine, en l'occurrence le Mercedes-Benz EQS, qui voit son autonomie baissée de 50%, mais il fait moins 25.
Oui, c'est un peu radical. En même temps, on voit les véhicules à essence, leur consommation augmenter aussi. Bon, pas de 50%, mais c'est difficile pour une mécanique d'évoluer dans un climat aussi difficile. Donc, cette semaine, on a eu les chiffres de l'Agence de protection environnementale des États-Unis, l'EPA, qui a dit que pour la nouvelle Hyundai IONIQ 6, cette nouvelle berline qui fait parler d'elle, j'ai l'impression chaque semaine, on aura droit à une autonomie de 270 à 361 000. Du côté du Canada, on n'a pas annoncé encore les cotes officielles, mais si on fait la conversion par nous-mêmes, ça nous amène à une autonomie qui pourrait atteindre jusqu'à 581 km.
Ce qui est assez intéressant, considérant qu'on exploite la même technologie que l'IONIQ 5.
Est-ce que ce serait un véhicule plus petit, mais surtout plus aérodynamique.
Ben voilà, toute la différence est là, parce que l'IONIQ 5 n'est pas aérodynamique. Le CX de l'IONIQ 5 est de 0,34. C'est pas très bon. Alors que, dans le cas de cette voiture-là, clairement, les lignes sont plus fluides et on va flirter avec le bas 0.2. Là. On sait que la voiture la plus aérodynamique sur le marché actuellement, c'est la Mercedes EQS berline et la Lucid Air, qui sont à du 0.20, 0.21.
Et quand on regarde de côté une IONIQ 6 et une EQS, la berline, bien entendu, on retrouve un peu ce même équilibre entre l'avant et l'arrière et dans la prononciation des courbes. Là. Alors, c'est normal que le coefficient soit pas.
Mais c'est sûr que
soit pas très différent.
De plus petites roues, une ligne beaucoup plus aérodynamique.
Une masse totale qui est peut-être inférieure aussi.
Ben, peut-être aussi.
On pourra le voir quand on aura toutes les spécifications en main.
Parce que l'IONIQ 5, dans sa version la plus efficace, est à 499 km. Ouais. On vient ajouter quelques 80 km supplémentaires avec la même technologie. Ça prouve que la résistance au vent, la résistance des pneus, ça a un impact significatif.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, à 11h30 sur TVA, on invite les gens à regarder cette fois le guide de l'auto après l'avoir écouté. Il sera question du Genesis GV60 qui sera mis à l'essai sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.
Et pour ceux qui veulent revoir l'émission par la suite, vous allez retrouver sur TVA+, évidemment sur la plateforme Medico, sur ma page YouTube Auto Joubert. On le met également en segment sur le site du guide de l'auto. Alors, pas de raison de ne pas le voir. Maintenant, toi, tu es allé t'amuser justement à Mécaglisse cette semaine avec la Porsche 911. Pas pire.
Oui, effectivement, il y a de pires semaines, tout juste avant les grands froids en plus. Donc, on le sait, depuis 2011, Porsche organise ce camp hivernal que j'appelle, cette espèce de classe neige pour hommes d'affaires fortunés. essentiellement, on propose un cours intensif de conduite hivernale sur ce circuit-là. On adapte des portions du circuit pour pratiquer certaines manœuvres. Et on met à la disposition des gens des 911 pour réaliser le tout.
Il y a aussi des Porsche Taycan, je crois.
Oui, il y avait quelques Taycan. C'est spécial à voir aller parce que ça réagit vraiment pas de la même manière.
Drôlement plus lourd, là.
Ouais. Oui, et j'ai fait, par exemple, le fameux slalom des comptes. Tu sais, on réinvente pas la roue. Tu le fais d'abord avec une Carrera 2, donc une version propulsée, et avec le contrôle de traction, si on veut, activé, pas activé, et en mode sport pour voir jusqu'à quel point on est permissif. Et quand on le retire complètement, c'est drôlement plaisant. Et quand on fait l'exercice ensuite avec une Taycan, une version turbo, là, avec les grands guillemets, et c'est drôle. La voiture ne réagit absolument pas de la même manière. Le poids n'est vraiment pas réparti de la même manière. Non. La sonorité, même artificielle, est complètement différente. Alors, c'est amusant de passer d'un véhicule à l'autre.
On nous a aussi... Je ne sais pas si ça était le cas pour toi, mais...
Parce que moi, j'ai fait l'exercice il y a quelques années.
Oui, mais pas avec une Taycan, sauf que j'ai fait du circuit avec une Taycan. Je me suis donné mal au cœur dans cette voiture-là, tellement les transferts de masse sont gigantesques. La voiture est capable de tout faire.
Absolument.
Mais c'est les transferts de poids qui sont immenses.
Ouais.
Et pour ceux qui ont le cœur sensible, là, qui ont le mal des transports, là, c'est effrayant. Moi, en tant que conducteur, je me donnais mal au cœur moi-même. Ça te donnait une idée à quel point c'est assez particulier. Ce qui n'arrive pas dans une 911 en passant. Là.
Non, c'est ça. C'est assez bien équilibré de ce côté-là. Et mais c'était intéressant parce qu'on a pu pratiquer des techniques de dérapage, tu sais, il y a la fameuse technique là, du frein à main qui n'est pas très, très évoluée, si on veut. Mais
qui existe de moins en moins, parce qu'avec un frein électrique, ça va mal.
C'est un peu moins évident, je te l'accorde, mais avec une voiture propulsée, bon, de braquer, de donner, d'appuyer tranquillement sur l'accélérateur, ben forcément, l'arrière-train va finir par décrocher. Mais on nous a montré, par exemple, en faisant un transfert de poids de l'arrière vers l'avant, ben il y a moyen de faire décrocher également avec... un transfert latéral aussi. Bref, énormément de plaisir avec la 911. On a pu conduire aussi une version à quatre roues motrices pour mettre en comparaison les deux. Bon, c'est certain que mon cœur de puriste préfère une version à deux roues motrices.
Qui plus est, à boîte manuelle, mais ça, il n'y en avait pas.
Et ça, il n'y en avait pas. bon, cela dit, une boîte PDK, là, la fameuse boîte automatique de Porsche, je dis souvent à la blague, elle change de vitesse avant même que tu aies le temps de penser à changer la vitesse. Ouais. Là, c'est très efficace. Mais c'est l'exemple, une fois de plus, qu'on peut utiliser une Porsche 911 l'hiver et ressentir du plaisir et ne pas... Et même une version à deux roues motrices, elle ne sera pas, à mon avis, handicapée si elle est bien chaussée, ce qui était le cas. Des Nokian cloutés, c'est assez désirable en hiver. De ton côté, Antoine, tu as conduit le Mercedes-Benz EQS dans sa version VUS.
Ben, j'en parlais un peu plus tôt et je suis toujours au volant de ce véhicule-là cette semaine. J'ai parcouru plus de 700 km à son volant jusqu'à maintenant. C'est extrêmement confortable. Je peux pas dire que je le trouve particulièrement joli. Je trouve que ça ressemble à pas grand-chose. Mais quand on prend place à bord, évidemment que c'est un salon roulant, il y a énormément de technologies. Le truc que je retiens, c'est la réalité augmentée. C'est-à-dire que si vous utilisez le système de navigation de Mercedes-Benz, ce qui m'arrive pas vraiment parce que je préfère toujours utiliser Google ou Plan, ça c'est moi personnellement, mais d'abord, le système de navigation de Mercedes-Benz fonctionne très bien, très facile d'entrer une destination, aussi facile que si vous le faites avec votre appareil mobile. Mais on va vous envoyer de l'information en temps réel avec une réalité augmentée au pare-brise et sur l'écran central. C'est-à-dire que vous allez avoir une image projetée dans l'écran central qui vous dit exactement avec des flèches dont la dimension va augmenter au fur et à mesure que vous arrivez.
Parce que lorsqu'on circule en ville et qu'on nous dit, par exemple, dans 350 mètres, tournez à droite, bon, est-ce que c'est celle-ci ou la suivante?
Ça peut pas être plus clair. Et dans l'écran, dans le pare-brise qui se trouve évidemment devant nous, ben on voit les flèches augmenter et la direction, et le véhicule va même tanguer un peu de lui-même. Il suffit de mettre une petite résistance, puis il le fera pas. Mais le véhicule va se diriger d'emblée vers l'endroit. Donc, il y a une technologie qui est quand même assez intéressante là-dedans. Je t'avoue qu'en une semaine, je n'ai pas encore réussi à trouver le bouton du volant chauffant. J'ai aucune idée il est où. J'ai pas fait de recherche.
Même à travers le menu.
J'ai pas fait de recherche là, Google là, ou YouTube, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Puis, mon test, c'est toujours ça. Quand l'utilisateur du véhicule n'est même pas capable de trouver les fonctions, c'est peut-être que c'est un peu compliqué.
Ouais.
Et c'est effectivement très compliqué.
Et tu sais, un simple bouton là, à gauche du volant, là, ça n'a jamais tué personne.
Ça fonctionne très, très bien. Ouais, c'est voilà. Ça. Bon, j'ai trouvé les sièges chauffants, heureusement, mais pour le volant chauffant, je ne l'ai pas encore trouvé.
Est-ce qu'on a les roues arrière directionnelles comme c'est le cas avec la berline?
Alors, écoute ceci. Tu as les roues arrière directionnelles. D'emblée, si tu achètes le véhicule sans option, il va avoir un angle de 4,5 degrés. Tu peux prendre un groupe d'options qui, à ce moment-là, va te donner un angle inversé de roue arrière jusqu'à 10 degrés. Donc, pour faire des virages en
U... C'est beaucoup 10 degrés.
Pour faire des virages en U, c'est extraordinaire. J'ai l'impression de conduire une Subaru Justy. Ça tourne sur un 10 sous. Mais tu peux aussi choisir cette option-là de façon individuelle en la téléchargeant via l'écran du véhicule à raison de $24.95 par mois.
Donc, tu as le choix d'écouter tes séries sur Netflix ou de pouvoir virer sur un 10 cents pour la même somme.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs options qu'on peut ajouter par nuage de par la seule sélection d'un clic qu'on va faire dans l'écran. Sous forme d'abonnement mensuel.
Bon, on en a déjà discuté de ça, toi et moi. Quelqu'un qui loue le véhicule, par exemple, pour une durée de 2 ou 3 ans, pourquoi aurait-il à absorber toutes ces options-là, tous ces gadgets-là, alors que lui va payer pour l'utilisation qu'il en fera du véhicule? Bon, c'est un débat intéressant.
Mais en même temps,
oui.
Elle est là, ça coûte pas plus cher.
C'est certain.
Mettez-la.
Oui.
Puis évidemment que je me dis, le gars qui a un tel montant pour se procurer un véhicule, d'aller mettre un 1500$ de plus pour l'option, c'est pas comme si...
Parce que c'est coûteux comme véhicule, là, déjà.
Le prix a carrément aucun bon sens. Tu sais, moi, je suis assis dans ce véhicule-là, je le conduis. C'est une version 580, il y a aussi une version 450, un peu moins puissante, puis rendu là, honnêtement, c'est pas comme si c'était un véhicule sport. Il n'y a pas de version AMG pour l'heure. Est-ce que ça viendra éventuellement? Peut-être. On sait qu'il y en aura une dans Berlin, là. Mais qu'il y en a déjà une dans Berlin, en fait. Mais pour l'heure, il n'y en a pas encore. Mais écoute, le véhicule que je conduis cette semaine coûte 178 000 $
C'est à la portée de tous, ça.
Pour vrai, là, tu regardes passer ce véhicule-là, tu sais ce que ça me rappelle un peu? Ça me rappelle la classe R de Mercedes.
Donc, très long, un petit peu trapu.
C'est un pseudo VUS, mais avec une ligne de un peu de familial surélevé. Ça n'a pas de look, c'est pas particulièrement fascinant. Faut que je te dise...
Tu pourrais pas imaginer que ça vaut 80 000 $ de plus qu'un GLE, là.
Jamais. T'sais. En fait, tu sais, moi, je conduis ça, puis je me dis, OK, j'ai un véhicule à 100, 110 000, là. 115 peut-être, ouais, il y a des options.
La Suprême de l'électrique, tu la payes très cher.
Ça n'a aucun bon sens. Ça a aucun bon sens, le prix de ce véhicule-là. Puis le pire, c'est que j'en ai croisé plusieurs cette semaine.
Ben,
sur
moi,
la
j'en
route.
Ai croisé un, d'ailleurs, à Mecaglis, avec les clients qui se
procurent. Ah bon, c'est ça. Alors, il y a quand même beaucoup de gens qui ont adhéré à ce modèle-là. Je comprends parce que c'est ultra confortable. En même temps, côté conduite, c'est très ordinaire. La direction, ça manque de précision, c'est mou, il y a du roulis en virage, c'est aucunement dynamique, là.
Puis l'autonomie, c'est raisonnable?
Bon, l'autonomie, ben c'est ça. Annoncé à 460 km, à du moins 25, comme c'est le cas aujourd'hui, tu vas faire 250, 275, alors c'est coupé de pratiquement 50%. Rechargé au garage, là, tu vois, quand je suis parti de la maison, on m'affichait rapidement, considérant la température, là, on m'affichait 320 km d'autonomie rechargé au garage aujourd'hui. Et je suis sorti de la maison, j'ai fait une dizaine de kilomètres, l'autonomie avait baissé à 260 parce qu'évidemment, on s'ajuste en fonction de la température.
C'est difficile, là, les grands froids.
Pour c'est difficile pour un véhicule électrique, point, parce que là, la thermopompe ne fonctionne plus. Il y a plus, je veux dire, on compose. Mais en même temps, il ne fait pas moins 25, moins 30 tous les jours. Là. C'est quand même un véhicule qui a une autonomie plus que raisonnable, 460 km. Ça te donne un confort intéressant. Il faut aussi que je te dise que malgré le poids de ce véhicule-là, malgré sa taille, aucun craquement, aucun bruit de caisse, ce qui n'est pas toujours le cas d'un produit Mercedes. Hein. On voit des lacunes de qualité d'assemblage. Il faut aussi souligner que c'est un véhicule assemblé en Alabama.
Oui, j'avais visité l'usine, d'ailleurs. Oui,
alors, tu sais, c'est un véhicule authentiquement américain qui cible une clientèle américaine. Ça va bien, mais le prix, pour moi, là, honnêtement, j'ai de la misère à comprendre qu'on vend ça un montant aussi élevé que ça. Ajoute la taxe de luxe. On est bien au-delà des 200 000 une fois que tu as ajouté tous les autres frais, là. C'est ça épouvantablement élevé comme facture.
Ça commence à être très salé.
C'est ça. Puis c'est pas comme si l'étoile Mercedes brillait de tous ses feux là, sur ce véhicule-là. Écoute, ça passe un peu inaperçu. Fait que je suis resté un peu sur mon appétit, même si c'est un véhicule qui va bien.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Germain, comme tu le sais, je suis à tourner plusieurs épisodes de Rouler au suivant en ce moment. On remet des véhicules à des gagnants. Et,
j'attends toujours mon tour, d'ailleurs.
Oui, je sais. Évidemment, il faut transférer les véhicules une fois qu'ils sont donnés. Et là, on s'est cogné le nez contre une porte, puisque jusqu'au 20 février prochain, il n'y a pas de possibilité de faire de transaction. Moi, je ne suis pas un commerçant, donc évidemment, il y a des exceptions, là. Mais de particulier ou d'entreprise à particulier, il n'y a pas de possibilité de faire de transaction. Puis on entend...
Tout est mis sur la glace, littéralement en ce moment.
Oui, littéralement, c'est ça. Et évidemment, on a entendu parler un peu dans les médias au cours des derniers jours, là, le fait que la SAC avait temporairement cessé plusieurs de ses opérations. Alors, pour y voir plus clair, on est aujourd'hui en compagnie du porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec, M. Gino Desrosiers. Bonjour, M. Desrosiers.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Bon, merci d'être avec nous ce matin. J'imagine que vous êtes au téléphone assez souvent cette semaine.
ça fait une bonne semaine.
Oui, hein, c'est ça. Du temps supplémentaire, là, ça s'appliquait peut-être un peu. évidemment, bon, les questions traditionnelles qu'on vous a posées peut-être ailleurs, on va commencer par ça. Quels sont les services qui ne sont pas disponibles en ce moment pour l'automobiliste qui n'est pas un concessionnaire, là?
Ben, je vous dirais que c'est peut-être plus facile de prendre la question à l'envers puis de parler de ceux qui sont disponibles.
OK.
Donc, ce qu'on avait, puis on s'est ajusté un petit peu en cours de route. Là, ce qu'on avait annoncé, c'était le remplacement. Premièrement, on pouvait vérifier la validité là, d'un permis de conduire. On peut remplacer un permis de conduire qui est perdu ou volé. On peut remplacer une plaque d'immatriculation perdue ou volée. On fait aussi l'admissibilité là, des permis étrangers parce que les gens qui viennent s'installer au Québec, tout dépendant de leur pays d'origine, là, il peut avoir des examens à faire. Il y a différentes. Pour ces gens-là, on les reçoit toujours en rendez-vous pour être capable de voir qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire comme démarche. Fait que si on continue à faire de l'admissibilité, c'est possible de vérifier la conformité d'un véhicule routier. Les examens de conduite pratique se poursuivent. c'est aussi possible. Et là j'arrive dans ce que quand je parle de l'ajustement, là, quelqu'un qui aurait besoin d'avoir obtenir son dossier de conduite pour l'obtention d'un emploi, on sera peut-être pas en mesure de lui fournir l'entièreté du dossier, mais il va avoir un résumé qui va permettre à son employeur de voir qu'il a permis de conduire et qu'il est pas, c'est pas, mettons, un cow-boy de la route. Puis on est aussi, au début, on avait annoncé que c'était pas possible de faire de déremisage ou de remisage de véhicules. Là, cette semaine, on s'est ajusté et pour des motifs, soit financiers ou humanitaires, quand les gens nous démontrent ces motifs-là, on va permettre le déremisage. Par exemple, si on pense à motif financier, quelqu'un avait planifié, mettons, de partir 3 mois aux États-Unis, puis il y avait des engagements de réservation à telle date, puis que là, attendre au 20 février, il risquait de perdre cet argent-là. Donc ça, on va permettre le déremisage avant le 20 février, ou quelqu'un a besoin d'un véhicule pour aller travailler aux États-Unis ou pour accompagner quelqu'un qui a des traitements médicaux, on va permettre le déremisage du véhicule. C'est toutes des opérations qu'on fait manuellement, parce qu'il faut comprendre que là, on a fermé les systèmes, donc c'est ça, c'est du manuel que nous, on va ressaisir par après dans le nouveau système pour que les dossiers de tout le monde soient à jour et conformes.
Mais si Antoine veut aller faire une balade de Miata qui est remisée, ça, c'est pas accepté.
Non,
pas pour... c'est ça. Juste... Mais pardon, parce
que... Mais au 20, il va pouvoir le faire assis confortablement chez lui, là, de remiser son véhicule à partir de cette ligue.
C'est ça, parce qu'il faut comprendre que actuellement, le site web ne fonctionne à peu près pas. Il n'y a pas beaucoup de possibilités qu'on peut faire sur le site web. Et ça m'amène...
Évidemment, tous les services en ligne qui étaient disponibles sur le site web, comme on a fermé les systèmes pour la conversion de données, ben on a suspendu ces services-là pour le moment.
Bon, évidemment, ça veut dire que toute personne qui veut vendre ou acheter un véhicule dans les 3 prochaines semaines, grosso modo, ça n'arrivera pas.
À moins de passer par un commerçant. C'est ce que je comprends.
Effectivement. En particulier, c'est pas possible, mais ça, en passant par l'entremise d'un commerçant, ça peut être possible.
OK, c'est ça. Donc, mais une entreprise comme la mienne qui veut vendre un véhicule ou donner un véhicule, un transfert de particulier à particulier, il n'y a rien à faire, il faut attendre 3 semaines. Il n'y a absolument rien à faire.
Effectivement, il faut attendre jusqu'au 20 février. Puis la beauté de la chose à partir du 20 février, c'est que ce service-là, il va être disponible en ligne.
On va pouvoir. C'est ça.
Donc ça va être plaisant, parce que vous vendez votre véhicule un samedi matin, ben dans l'ancien monde, vous deviez vous déplacer à la SAAC avec l'acheteur dans les jours d'ouverture, alors que là vous me vendez votre véhicule le samedi matin, vous faites ça en ligne. C'est un peu sur le principe d'une transaction Interact. Donc, vous entrez votre transaction. Quand vous la confirmez, moi, j'ai une notification comme quoi c'est à moi à compléter la transaction. Je vais compléter la transaction. Je peux imprimer, je peux certifier que je vais rouler avec le véhicule ou je vais le remiser. Si je roule avec le véhicule, je peux imprimer une plaque provisoire papier que je mets dans le véhicule. Ma plaque, elle va t'envoyer par la poste par après. Donc, le samedi midi, je peux rouler avec le véhicule que vous m'avez vendu le samedi matin au lieu d'attendre des disponibilités à la SAAC, puis que vous et moi, on soit disponibles en même temps pour y aller.
On va revenir, évidemment, sur tout ce que ce nouveau système-là va permettre d'offrir, parce que j'ai des questions là-dessus aussi. Mais avant tout, comment on explique que le site ne peut pas continuer d'être fonctionnel le temps qu'on mette en marche le nouveau? On est en 2023. J'imagine que sur le plan technique, je ne suis pas informaticien, mais j'imagine que sur le plan technique, il y a quand même la possibilité de pouvoir continuer d'utiliser une plateforme web pendant qu'on en bâtit un autre.
Parce que je donnais l'exemple, quand iOS sur mon iPhone fait une mise à jour, je ne perds pas l'utilisation de mon téléphone pendant 3 semaines, le temps que ça s'opère, là.
Mais iOS, il fait une mise à jour. Nous, on fait pas une mise à jour, là. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est toute notre vieille technologie puis notre vieille infrastructure technologique qu'on remplace. Et moi non plus, je suis pas informaticien, mais les informaticiens chez nous, en collaboration avec la firme informatique avec qui on a signé un contrat pour travailler sur ce dossier-là.
Ça, c'est la firme McKenzie, si je comprends bien?
Non, on travaille avec LGS, là, qui est une filiale de IBM. Là.
OK.
Donc, ça, puis la conclusion qu'ils en sont venus, parce qu'ils ont regardé les possibilités là, de faire un système parallèle ou de dire, bon, on va fonctionner par région. Mettons, cette semaine, on fait Montréal, on laisse le reste ouvert. Il y avait, en raison, entre autres, des vieux systèmes, là, nous, et ça surprend toujours un peu les gens quand on mentionne ça. Nous, on a la plupart de nos systèmes informatiques, il y a à peu près 300 systèmes là, qui ont été bâtis un après l'autre, là, puis ça a l'air d'un plat de spaghettis, là, si on va faire une image facile. Il y en a là-dedans qui datent du début des années 80, quand on a informatisé la SAC, là. À l'époque où vous et moi, là, on devait encore jouer à la Marelle dans le cours d'école. Là.
À l'époque où on immatriculait des Chevrolet Citation. ça ressemble à ça.
Ça a bien changé.
Fait que toute cette problématique-là, il y avait un risque de que dans la conversion des données, on échappe quelque chose, puis que des opérations qu'on aurait pu faire en parallèle, on les ait plus. Donc, c'est pas de gaieté de cœur que cette décision-là a été prise, mais on a dit on va fonctionner au minimum pendant la période de 16 jours ouvrables, si on enlève les fins de semaine.
Ouais.
Puis pendant ce temps-là, ben la conversion se fait elle 24 heures sur 24. Là, c'est 15 000 étapes. Il y a comme ce que nous, on appelle, ce que nos informaticiens appellent leur plan de transition. Là. Donc, ils ont 15 000 étapes, là, puis ils ferment des choses, puis ils font le ménage des données parce que nous, dans nos vieux systèmes, là, quand vous arrivez dans le monde, dans l'ancien monde, vous arrivez à la SAAC, puis vous aviez une question sur votre permis de conduire. La personne allait dans un vieux système informatique qui était encore monté en douce. Là, on était loin d'avoir les systèmes que la plupart des gens ont aujourd'hui. Donc, les vieux écrans noirs avec de l'écriture vert ou orange, là, ils allaient voir votre information de permis de conduire. Là, on vous répondait. Là, vous aviez... je voudrais payer mon immatriculation. Là, il fallait fermer ce dossier-là, aller en ouvrir un autre. Il y avait une possibilité de 17 diaporamas différents pour réussir à répondre aux questions, de faire le tour du dossier client en permis immatriculation. Là, le but, c'est de faire ramener tout ça en un seul dossier qui va être accessible autant pour vous en ligne quand vous allez créer votre dossier client que pour le préposé qui va être en centre de service et vous présenter en centre de service. Donc, on va gagner du temps quand on va vous servir en centre de service parce qu'on va avoir un système rapide, puis toute l'information va se retrouver au même endroit. Donc là, dans nos 10 milliards de données, il faut faire le ménage parce qu'on a 300 systèmes, peut-être qu'on a 10 fois de l'information sur le permis de conduire d'Antoine Joubert. Donc là, on va faire le ménage, on va garder ce qui est le plus récent sur Antoine Joubert, puis on va le mettre dans son dossier pour quand Antoine Joubert va venir nous voir, on va être capable de lui répondre avec de l'information. Puis quand il va aller en ligne, il ne verra pas quelque chose qui date d'il y a 15 ans, mais il va voir son information la plus récente.
Vous nous parliez d'un système de l'ancien monde qui nous semble désuet. Est-ce qu'on peut imaginer que le nouveau système sera plus efficace aussi en termes de sécurité des données? Parce qu'il y a des données sensibles, il y a des données privées qui sont...
Il y a des transactions monétaires.
En plus, oui.
Oui, c'est effectivement, la sécurité, c'est prioritaire. Donc, le système est fait pour être sécuritaire. Puis l'authentification, là, on va être les premiers là, au gouvernement du Québec à utiliser le nouveau service d'authentification gouvernementale. Donc, quand vous allez vous connecter pour la première fois, vous allez devoir vous créer un identifiant et un mot de passe, mais avec quatre informations personnelles qui vous sont propres, soit numéro d'assurance sociale, le numéro de permis de conduire, le numéro de carte de crédit et le numéro d'un de vos deux derniers avis de cotisation de Revenu Québec. On s'entend que les trois premiers, si vous perdez votre permis de conduire, votre portefeuille, ça pourrait être récupéré par quelqu'un, mais il ne pourra jamais se créer un dossier à votre nom ou accéder à votre nom parce que moi, je sais pas si vous en connaissez, mais moi, je connais personne qui se promène avec son avis de cotisation dans ses poches.
J'ai toujours ma petite filière avec moi. Non.
Et je trouve ça intéressant. Et je trouve ça intéressant que vous disiez ça, l'avis de cotisation, parce que là, c'est sur une note plus personnelle, mais je vous fais une mise en contexte. J'ai ma fille qui est devenue majeure récemment, qui n'a pas d'avis de cotisation et qui doit souscrire à la RAMQ. Et pour souscrire à la RAMQ, ça prend un avis de cotisation. Mais elle n'a jamais fait de rapport d'impôt. Donc, comment on obtient un avis de cotisation? J'imagine qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui ont 16 ans, 17 ans, qui n'ont jamais fait de rapport d'impôt. Alors, d'avoir un avis de cotisation pour ces gens-là, c'est impossible.
Donc, c'est le numéro d'assurance sociale qu'on utilise dans ce cas-là?
Il va, et ça, mais puis quand les gens vont créer leur identité gouvernementale, et là, ce bout-là, c'est pas parce que je veux m'en laver les mains, mais c'est un bout qui relève du ministère de la cybersécurité et du numérique, parce que, comme je vous dis, du moment où vous l'avez créé une fois, il va vous servir dans tous les sites gouvernementaux qui vont adhérer à cette technologie.
Ouais, je comprends, mais c'est parce que moi, je peux vous dire que présentement, ma fille se cogne le nez contre une porte, là, contre un mur, en fait.
Je vais essayer de vous répondre, M. Gueule. Ouais. Je vais juste vous dire que les gens, quand ils vont arriver pour se créer, là, ils vont avoir de l'assistance. Pour des cas comme celui-là, ils vont être capables d'avoir des formules là, complémentaires. Là. Moi, je parlais pour l'ensemble, la majorité des gens. C'est sûr qu'il y a toujours des cas d'exception. Puis dans ces cas-là, les gens vont t'accompagner. Là.
OK.
J'ai un peu la tête dure, mais je suis surtout très sceptique en général. Quelle est la garantie que le 20 février, à 7 heures au matin, tout sera opérationnel et fonctionnel sans aucun pépin?
Ben, on ne peut pas vous garantir qu'il n'y aura pas des petits pépins, comme on ne pouvait pas vous garantir qu'on n'avait pas des petits pépins avec nos anciens systèmes.
C'est ça. Nous, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça ne pourrait pas être pire.
Parce qu'on pourrait se rappeler certains épisodes qu'on a vécu dans les dernières années. C'était pas toujours drôle non plus, là.
Ouais, je comprends. Moi, en fait...
Mais j'ai juste pas envie que... Oui, le 19, on nous dise, « Ah, finalement, ça va être deux semaines de plus. » Puis, rendu au début du mois de mars, on nous dise, « Ah, on va étirer un 10 jours de plus. » J'espère juste que l'échéance ne se reportera pas indéfiniment.
Pour répondre à votre question, nous, on a fait des tests, là, puis différentes formes. Mais si on résume, il y a comme eu deux types de tests qui ont été faits. Là. Il y a eu des tests qui ont été faits sur la capacité de charge du système, le nombre de demandes ou de connexions qui peut être fait. Puis ces tests-là sont concluants. Les deuxièmes tests qu'on a fait tout à l'heure, je vous parlais de la période de transition, le plan de transition où il y avait 15 000 étapes qui roulent 24 heures sur 24. Là, il y a 400 employés qui se relaient là, sur les quarts de travail pour que ça roule. Ben, cette opération-là, elle a été pratiquée à deux reprises. Elle rentre dans les temps. Donc, nous, on est confiants que ça marche. Mais comme disait notre vice-président hier, vice-président avec ça, Sécurité Roussel, qui était en entrevue avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'on va avoir des petits pépins quand ça va partir, mais on va être capable de faire fonctionner la majorité, puis on va s'ajuster sur les... Parce que dans l'ancien monde, il y a des matins, on se levait, puis le système fonctionnait pas, donc on se dépêchait à remettre ça en marche pour que ça roule. Donc, ça va être on va s'ajuster, mais on est très confiants que ça va bien fonctionner.
Est-ce que le site va être opérationnel 24 heures par jour? Parce qu'on se rappelle que, toujours dans l'ancien monde, passer 23 heures la semaine, c'était pas possible. C'était pas possible le dimanche matin non plus.
Oui, ça va être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Bon, parfait.
Voilà une bonne nouvelle.
Ça fait toujours drôle de dire ça, mais c'est la vétusté et la désuétude de ces systèmes-là qui faisaient que pour faire des mises à jour banales, là, ben parfois il fallait arrêter les systèmes pour faire. Fait que c'était pas l'infrastructure technologique optimale pour offrir des services en ligne. Puis, je sais pas si vous vous rappelez quand on avait fermé tous les centres de services en mars 2020 en raison de la pandémie.
Oui, mais oui.
Les gens nous demandaient pourquoi vous ne faisiez pas de transactions en ligne. On n'avait pas la capacité de le faire avec les vieux systèmes. On était en train de travailler sur quoi on arrive aujourd'hui.
Parce le système n'était pas vacciné. Là.
Non, le système n'était pas vacciné. Il n'était pas prêt. Il n'était pas majeur non plus.
C'est ça.
Ben là, on était en train de travailler là-dessus. Puis une chose aussi qu'il faut penser, c'est que ça aurait pu être plus rapide si on avait dit, OK, on change les systèmes, puis on continue à faire ce qu'on fait. Donc, on sert des gens au comptoir. Alors que quand la décision a été prise de remplacer les systèmes, ici, ben, les gens ils se sont dit, pourquoi on ne revoit pas un peu notre façon d'offrir les services pour être capable d'arriver au 21e siècle, comme ouais. la plupart des organisations et entreprises. Donc, pour faire plus de services en ligne, ça peut avoir l'air banal, mais nous, il y a des choses qu'il fallait changer qui n'étaient même pas informatiques. Il y a des règlements ou des lois qui ont dû être changées, parce que quand c'est écrit dans la loi qu'il faut que tu te présentes en personne pour signer, ben, si tu ne modifies pas la loi avant de permettre de le faire en ligne,
Puis
une organisation gouvernementale qui contrevient à la loi, c'est jamais bien ben gagnant. Non?
C'est assez moyen, effectivement. OK, j'ai quelques questions en rafale. Alors, on va essayer de répondre à toutes ces petites questions-là assez rapidement. D'abord, je vends un véhicule à quelqu'un d'autre. Ce véhicule-là doit avoir une évaluation pour les taxes. Disons que le véhicule est évalué à 6 500 $ selon la SAC. Moi, je vends le véhicule 5 000. Est-ce que le système va être en mesure automatiquement de fournir l'évaluation pour taxer en conséquence?
Ça devrait, parce que dans une démonstration que... Parce que moi, personnellement, je n'ai pas testé le nouveau système, mais dans une démonstration que j'ai vue, quand tout à l'heure, on parlait là, que la transaction en ligne se ferait là, un peu comme une transaction Interact, ben quand l'acheteur complète son bout, ben il va avoir un endroit où il va entrer le prix de vente, puis là, il va avoir un calcul qui va se faire pour le versement de la taxe, puis vous allez pouvoir décider de le payer directement ou de faire l'étalement. Donc, vous allez avoir plein de possibilités en ligne pour être capable de compléter votre transaction.
Si j'achète un véhicule catégorisé comme ancien, est-ce qu'on peut faire la transaction en ligne? Et je pose la question parce que lorsqu'on achète un véhicule ancien, ça prend un document d'évaluation d'expert qu'on va fournir avec le véhicule, nonobstant le prix de vente. Ce document-là, on peut bien le télécharger sur le site de quelque façon que ce soit, mais il faut qu'il soit numérisé, informatisé, que le prix soit accepté. Je ne sais pas trop comment ça marche.
Ça j'ai pas ce détail pointu là. Je pourrais le vérifier puis vous le reconfirmer par la suite.
Un mandataire de la SAC qui n'offre pas nécessairement tous les mêmes services qu'un bureau officiel de la SAC, est-ce qu'il se voit pénalisé suite à la refonte de ce système-là ou est-ce qu'il va continuer d'offrir un maximum de services?
Il va offrir les mêmes services qu'il offrait actuellement. Puis il va travailler avec un système plus récent que le vieux système sur lequel il travaille actuellement.
L'enregistrement d'une voiture, ce qu'on appelle le petit papier vert qu'on a entre les mains, j'ai cru comprendre que ça allait changer. Quelle va être l'information supplémentaire qu'on va retrouver sur ce papier-là et comment ça va être un avantage?
Bien, ça va être... Là, pour l'information... Oui, il va effectivement changer... De mémoire, là, je pense qu'on va plutôt enlever de l'information qu'en ajouter. Ça va être plutôt parce que des fois, il y avait de l'information qui était, mettons, sur le nombre d'essieux qui n'était pas nécessaire pour une voiture, mais qui apparaissait pareil. Donc ça va être enlevé. Le certificat de matriculation, l'information va vraiment être en lien avec le véhicule que vous avez. La deuxième chose, c'est que le certificat d'immatriculation, il va changer de couleur, il sera plus vert, il va être blanc. Puis la raison est facile, c'est que vous allez pouvoir, si vous le perdez, l'imprimer directement à partir de votre dossier personnel en ligne plutôt que de vous représenter dans un point de service. Donc, vous allez pouvoir consulter votre certificat en ligne, vous allez pouvoir l'imprimer si vous le perdez. Là, vous allez pouvoir... ça, c'est des choses qui vont se faire en ligne.
Pourquoi est-ce que la décision de ne plus donner de plaque d'immatriculation dans les bureaux de la SAC et les concessionnaires a été prise? Je vous pose la question, évidemment, parce que je sais qu'on va imprimer des plaques temporaires, mais on vit au Québec, il pleut, il neige, il fait moins 20. Installer ça sur une auto, c'est pas toujours évident. On passera pas notre temps à imprimer, réimprimer, la feuille va s'arracher. Puis on connaît la fiabilité de Post Canada. Moi, récemment, ça m'a pris un mois et demi, deux mois à recevoir des lettres chez moi. Fait que j'aurais la même crainte pour la plaque que j'attendrais par la poste. Là. J'ai peur. Moi, la transition, là, je vous dirais que ça, c'est le point sur lequel je suis un peu plus critique. Là.
Bon, je pense qu'il y a entre autres une question là, de gestion d'inventaire dans les centres de services puis de manipulation. Pour ce qui est effectivement de la température, c'est sûr que votre plaque papier, là, ça va être mieux de la mettre en arrière dans votre vitre arrière que à l'extérieur du véhicule. Puis présentement, on en fait là, de l'envoi de plaques par la poste, là, quand soit vous commandez une plaque personnalisée ou que vous faites un remplacement de plaque d'immatriculation là, qui est défectueuse en utilisant notre service en ligne là, qui est actuellement fermé, mais qui fonctionnait bien depuis novembre 2020. Et puis les gens, habituellement, ils reçoivent leur plaque dans un délai de 15 jours. Fait que c'est un système qui est quand même bien rodé, là.
Mais dans le contexte où la plaque est perdue par la poste, etc., bien, il y a tout un reprocessus à faire pour commander une autre plaque, là. Alors, tu sais, il y a quand même une part de risque qu'on n'avait pas avant, là.
Vous pouvez le voir comme ça, mais comme je vous dis, actuellement, le système qui a été rodé pour l'envoi postal fonctionne quand même bien. Donc, on est confiant que ça fonctionne bien aussi.
J'ai cru comprendre que les plaques d'immatriculation vont pouvoir demeurer sur les véhicules et passer d'un propriétaire à l'autre, ce qui n'a jamais été le cas au Québec auparavant.
C'est le cas ailleurs dans le monde.
Bien, en Californie, notamment, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, la plaque va souvent rester avec le véhicule et changer de propriétaire. Alors, est-ce que l'automobiliste québécois va avoir le choix d'avoir une nouvelle plaque ou de conserver celle de l'ancien propriétaire? Comment ça fonctionne?
Oui, ça va. Effectivement, puis vous allez pouvoir, quand vous cédez votre véhicule, décider si vous cédez aussi la plaque ou si vous conservez la plaque pour le prochain véhicule que vous allez acheter ou que vous avez déjà acheté là. Donc, puis quand vous allez faire la transaction en ligne avec votre dossier là pour le transfert entre particuliers, vous avez une case à cocher où ça va être écrit, mettons. C'est pas la phrase là, mot à mot, mais mettons, je désire céder ma plaque à l'acheteur. Vous allez cliquer ça.
D'accord.
Ça va être automatiquement le lien va se faire pour que quand l'acheteur lui va confirmer la transaction, que la plaque d'immatriculation soit liée à son véhicule à lui.
Parce que ça, dans le fond, sur le plan environnemental et sur le plan logistique, je trouve que c'est un pas en avant. Pour ceux qui craignent de ne pas avoir une nouvelle plaque, justement, ou qui veulent pas nécessairement se casser la tête avec ça, bien, garder la plaque de l'ancien propriétaire, ça se fait tout naturellement. Puis c'est une plaque de moins qu'on fabrique, là.
Puis là, tout à l'heure, je vous parlais là, que pour faire évoluer nos façons de faire, il fallait modifier la réglementation, mais avant ça, le fait de ne pas pouvoir céder sa plaque, ça faisait partie du règlement sur l'immatriculation. Donc, c'était des modifications qu'il fallait apporter, mais vous avez raison, sur un point de vue, ne serait-ce qu'environnemental, là, c'est des plaques de moins à produire parce que il y a des. Dans l'ancien monde, là, notre plaque d'immatriculation, notre numéro de plaque nous restait attaché notre dossier jusqu'à notre mort. Là. Quelqu'un qui avait eu plusieurs véhicules avec plusieurs plaques, ben il pouvait avoir dans son dossier une série de numéros de plaques qui n'existaient plus du tout, mais qui étaient rattachés à son dossier quand même.
Alors, je pense que Germain a une dernière question, mais avant tout, je tiens à vous remercier. À vous remercier parce que, malgré tous ces changements-là, vous n'avez pas cru bon de faire comme l'Ontario et de nous donner deux plaques d'immatriculation, une qu'on met à l'avant et une qu'on met à l'arrière.
Il n'y a rien de plus laid que ça!
C'est épouvantable. Ça, je comprends pas encore pourquoi il y a certains États américains, certaines provinces qui ont deux plaques.
Beaucoup d'États américains, en fait.
Mais au Québec, c'est nous qui sommes une bonne nouvelle, ça n'arrivera pas et on vous en remercie énormément.
C'est nous qui sommes l'exception.
On en a
fait.
Déjà eu deux.
On a déjà eu deux plaques
au Québec. Là, ça a comme tombé à l'époque où on était encore très jeunes.
En fait, Germain était très, 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 très jeune.
J'étais surtout pas né, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. En terminant, M. Desrosiers, est-ce que...
Vous pensez, si je vous ai fait vieillir trop, là.
Non. je sais qu'à la radio, c'est pas évident.
Je vais m'en occuper, moi, de le faire vieillir, c'est bien correct.
en terminant, M. Desrosiers, pour le consommateur moyen, est-ce qu'il y a des frais supplémentaires à prévoir pour une quelconque transaction ou une quelconque étape dans un éventuel processus avec cette nouvelle plateforme-là?
Des frais de transaction en ligne, par exemple?
Oui, par exemple.
Non, il n'y a rien de prévu en ce sens-là. C'est justement, le système va se financer avec les gains d'efficacité que nous, on va faire, entre autres, ne serait-ce que, si on regarde là, dans les dernières années, puis on avec le nombre de transactions qu'on fait, puis on fait une projection. Nous, là, on a à peu près 2 % de plus de transactions permis immatriculation à chaque année. Ça, si on est capable de répondre à cette demande-là, ça veut dire beaucoup plus de faut engager du monde en pénurie de main-d'œuvre. C'est pas nécessairement facile d'engager des gens. Donc, le fait qu'on va pouvoir faire plus de services en ligne, ben c'est de la main-d'œuvre de moins à qu'on n'aura pas moins d'engager. Le fait que, parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand vous allez créer votre dossier en ligne, vous allez pouvoir décider si vous conserver les communications écrites avec la SAC ou si vous voulez que ça se fasse tous de façon électronique. Donc, okay. On vous envoie des messages dans votre dossier client. Donc, si vous décidez que vous n'en voulez plus de nos avis de renouvellement papier, ben juste en frais d'impression, en achat de papier puis en frais postaux, c'est rapidement, là, c'est des gains appréciables pour la société.
Bon, puis évidemment, on peut s'imaginer aussi que ce nouveau site Web-là, en terminant, va permettre de désengorger les bureaux de la SAC et les bureaux des mandataires. Est-ce que vous prévoyez, je ne veux pas dire des mises à pied, mais nécessairement de la réduction de personnel dans certains des bureaux de par l'efficacité de ce système-là?
Mais ce qu'on prévoit, c'est sûr que les bureaux vont rester ouverts parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de continuer à aller dans des centres de services pour certaines transactions. On a juste pensé aux examens ou à la prise de photos. On n'est pas encore rendu à une prise de photos qui n'est pas faite en centre de service.
Mais il y a encore des gens qui vont faire des mises à jour de leur carnet de compte de banque. Hein? Fait que il va toujours y en avoir.
Le fameux petit livret.
Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec la technologie, donc ils vont continuer à venir nous voir. Mais si, effectivement, il y a moins de fils, ben, les gens qui sont dans les centres de service, ils vont être utilisés à d'autres fonctions. Par exemple, ces gens-là vont, admettons que dans un centre de service, une journée, c'est plus tranquille, mais qu'on sait que sur la ligne téléphonique, ben, il y a beaucoup d'attentes. Ben, il y a des préposés au comptoir qui vont être disponibles pour aller faire du service téléphonique. Donc, on va avoir du personnel de faire, je dirais, plus agile pour changer de façon de travailler. Puis ça va permettre de répondre, de mettre des gens là où on va en avoir besoin. Donc, il n'y a pas de perte d'emploi de prévu parce que, je ne sais pas si vous avez, il y a des journées appelées à la SAC, ça peut être compliqué aussi. Donc, si on a plus de personnes pour répondre, on va être capable de prendre davantage d'appels. Donc, on devrait rendre la clientèle plus satisfaite.
Monsieur Desrosiers, on vient de passer 30 minutes ensemble en espérant que ma prochaine transaction à la SAC soit plus courte que ça. Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Et puis,
on se reparle le 21.
C'est ça, on se reparle le 21 au matin. Ça marche.
C'est parfait, bonne journée.
Merci, au revoir.
Beaucoup, au revoir. Cube Radio.